Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Comme vous êtes impatiente Isabelle, bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Masque ou plus masque, couvre-feu ou pas couvre-feu, on sent bien qu'avec les beaux jours, les chiffres de l'épidémie qui reculent, on a tous la tentation du relâchement. Que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire? Sachant, rappelons-le, que le virus est toujours là. Et bien c'est le professeur Fontanet du Conseil Scientifique qui nous le dira tout à l'heure à 18h15. Autre tentation, la tentation du plaisir, avec pour les amoureux du foot, un France-Allemagne alléchant qui se profile demain soir, c'est à l'Euro, premier match pour les Bleus. C'est évidemment un des sujets qu'on abordera avec Alain Giresse qui publie Né pour jouer aux éditions Robert Laffont. Giresse qui sera avec nous à 18h35. Amandine Bégaud, elle est déjà là. Bonsoir et bienvenue Amandine.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres de l'actualité de ce lundi 14 juin.
Alors moi je ne vais pas vous parler tentation mais vaccination. Ça commence demain pour les 12-15 ans. Élection, ça c'est dimanche, premier tour des régionales. Et puis transpiration, pas très glamour je vous l'accorde, mais on a eu chaud aujourd'hui, très chaud.
On est très en ion ce soir. Oui. La météo, Louis Baudin, je cherche. Je ne trouve pas comment vous lancer en ion.
Encore transpirer demain.
Oui, voilà. Mais ça finit pas en ion.
Ça fait pas en
mais
ion.
Il fera beau quand même.
Donc demain,
les prévisions, bravo, oui. Les prévisions.
Ouais, bien joué. Avec du soleil pour demain, comme aujourd'hui, quasiment partout, toute la journée. Et comme aujourd'hui, on se verra un risque orageux sur les Pyrénées, sur également le sud des Alpes, ou encore du côté de la Corse. Ça restera très limité, en pleine, donc, du grand soleil toute la journée. La même chaleur qu'aujourd'hui, avec le matin déjà entre 14 et 20 degrés du nord au sud, et l'après-midi, 21 à 24 degrés près de la Manche, mais 29 à 34 degrés dans toutes les autres régions.
Merci Louis.
RTL Soir.
Et pour commencer justement, direction Toulouse, 33 degrés à l'ombre et à l'abri cet après-midi. Alors ce n'est pas l'endroit où il a fait le plus chaud, on a relevé 37 degrés à Perpignan et à Nîmes, mais ils étaient nombreux, Patrick, qui sont sur les bords du canal du Midi à fuir la fournaise.
Oui, certains ont eu la chance de quitter le centre-ville de Toulouse où la chaleur était très pesante aujourd'hui.
Ouais, c'est un enfer, c'est un enfer. Là, surtout à Toulouse, c'est hyper sec. Heureusement qu'il y a un peu de vent.
Et c'est vraiment écrasant comme chaleur et on ne fait que commencer.
Pour aller se ressourcer au bord du canal du Midi, à quelques kilomètres.
On n'a pas la plage, c'est vrai, mais vraiment avec une vue comme ça et puis la fraîcheur du canal, il n'y a pas plus calme dans le coin.
Mais là, c'est agréable de manger à l'ombre, au frais, au bord du canal. Ça déstresse un peu notre journée.
Voir du monde sortir et voir l'eau, ça me rafraîchit déjà de loin.
Une véritable bouffée d'oxygène et sans masque la plupart du temps, comme pour ces touristes béarnais.
Mais qu'est-ce que c'est agréable. Comparé, on arrive de Toulouse, du centre-ville, et alors là, ce petit air, c'est vraiment... On y resterait. Petit vent, au bord de l'eau, la belle vie, quoi.
Vous allez vous baigner tout à l'heure dans le canal du Midi?
J'ai pas trop confiance et je sais pas bien nager, donc non. Si ma belle-mère tombe à l'eau, j'irai la chercher. C'est la seule raison.
Vous l'avez senti, ce petit air, là
hein? Ouais, ouais, mais ça demande quand même de vérifier s'il va vraiment chercher la belle-mère dans l'eau. Moi, je dis ça, je dis rien.
Reportage signé Patrick Hisson.
Chaleur d'autant plus difficile à supporter avec le masque sur le nez, hein, Amandine.
Oui, ce matin sur RTL, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, avait laissé entendre que tout ça se serait sans doute bientôt terminé.
On lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin, si les conditions le permettent.
Donc plus de masques en extérieur à partir du 30 juin, et en intérieur, on le gardera?
Oui, vous savez qu'en intérieur, il y a beaucoup plus de risques, et puis vous savez que nous devons aussi viser le plus grand nombre de personnes vaccinées. Donc faites-vous vacciner
encore
maintenant.
Encore un petit mot sur le masque. Vous nous confirmez qu'à partir du 1er juillet, c'en est fini du masque en extérieur.
Sachant que toujours les mesures barrières demeureront, mais évidemment, c'est important, et faire attention dans les grands rassemblements.
On avait cru donc comprendre le 1er juillet, bien raté. Moins d'une heure plus tard, rétropédalage, le ministère de la Santé indique que rien n'est encore tranché, Virginie Garin.
Non, avant de l'annoncer, Olivier Véran veut attendre de voir comment évolue l'épidémie. Alors avec moins de 5000 nouveaux cas par jour pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Il veut aussi attendre l'avis du conseil scientifique, sachant que son président Jean-François Delfraissy l'a dit sur RTL mardi dernier. Il pense que ce sera très difficile de demander aux Français de garder le masque à l'extérieur après le 30 juin, mais la décision sera prise au dernier moment. Le risque, quand on le dit trop vite, c'est que les gens appliquent la mesure tout de suite et se relâchent. Et on le rappelle, il y a un variant qui est en train de faire repartir l'épidémie au Royaume-Uni. Il faut rester prudent en France si on ne veut pas une quatrième vague en septembre.
Merci Virginie Garin. Puis vous évoquez le conseil scientifique, c'est un de ses membres éminents, le professeur Arnaud Fontanet, qui sera avec nous dans 10 minutes maintenant à 18h15.
Une certitude, la vaccination des adolescents, elle commence demain, sont concernés les 12-15 ans. Ils devront avoir l'autorisation de leurs deux parents et être accompagnés d'au moins l'un d'entre eux. Une vaccination des plus jeunes qui est déjà effective aux États-Unis depuis maintenant un mois, Lionel Gendron.
Gaspard est un adolescent français de 16 ans. Lui et sa famille résident à New York et il n'a pas hésité à franchir le pas, même s'il voit beaucoup de conversations anti-vaccins sur les réseaux sociaux.
Ouais, plein. Franchement plein. Twitter, Instagram. Les gens qui s'opposent parlent plus que les gens qui s'opposent pas.
Ça t'a pas influencé ?
Absolument pas. Du coup, j'ai jamais eu vraiment de crainte.
Plus de 7 millions des 12-18 ans ont été vaccinés, près d'un adolescent américain sur 3. Mais un quart des parents ne veulent pas faire vacciner leurs enfants, parfois contre le souhait de ces derniers. Alors, Arine, un Californien de 13 ans, a créé un site internet dédié, Teens for Vaccine, les adolescents pour le vaccin.
On donne des arguments pour convaincre les parents que le vaccin est sûr. On veut que tout le monde soit en sécurité.
Sur ce site, il y a des interviews de spécialistes, un tableau pour répondre aux principales inquiétudes des parents et des conseils pratiques pour ceux qui ont peur des aiguilles, par exemple.
Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux États-Unis. Dans l'actualité également, l'affaire Duhamel classée sans suite. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le parquet de Paris, qui rappelle que les faits sont prescrits et ne peuvent donc faire l'objet de poursuites. Le politologue Olivier Duhamel avait, on le rappelle, été accusé d'inceste, des faits qu'il a en partie reconnus lors de son audition.
À Douai, aujourd'hui, le début du procès en appel du meurtrier présumé d'Élodie Kulik. Cette jeune femme, directrice d'une agence bancaire, retrouverait morte, étranglée, dénudée et partiellement calcinée. C'était en 2002.
L'accusé Willy Bardon avait été condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, il continue de clamer son innocence. Près de 20 ans après les faits, il s'est à nouveau retrouvé face au père de la victime, Frank Hanson.
Oui, quand Willy Bardon, crâne chauve en chemisette, arrive dans le box accompagné par les policiers, Jackie Kulik, juste en face, le fixe du regard. Près de 20 ans après, le père de la jeune banquière a encore dû écouter le calvaire subi par Élodie sur cette route de la Somme. Il a ramené son portrait dans la salle face à cet accusé qui plaide encore non coupable.
Pour nous, il n'y a aucun doute. Hein, c'est lui. Hein. J'attends qu'on le condamne et qu'on le condamne lourdement. Il faut qu'on voit Élodie. Hein. Élodie, elle doit être présente à son procès. Même si l'autre est arrivé à faire qu'elle ne soit plus là, il était important pour moi qu'elle soit présente au procès de Bardon.
Devant la présidente, Willy Bardon, que l'on présente comme porté sur l'alcool et le sexe, reconnaît qu'il avait une grande gueule. Des défauts, oui, mais pas de quoi en faire un coupable, selon maître Gabriel Duménil, l'un de ses avocats.
Monsieur Bardon clame son innocence depuis 2013. Quand on veut tellement trouver un coupable, on finit par en fabriquer un. Il n'y a rien dans ce dossier. Cette voix qu'on entendra, une bande terrible, démontreront qu'elle ne pourra pas, dans le cas d'un procès pénal, être servie.
Et comme au premier procès, les jurés devraient entendre prochainement les 26 secondes de ce dernier appel au secours d'Élodie Kulik. Quelques bribes de paroles glaçantes qui seront encore déterminants.
Frank Hanson devant la cour d'assises de Douai pour RTL.
On marque une petite pause et wir fahren nach München. On va à Munich, ah oui, où l'équipe de France de foot est arrivée pour jouer demain son premier match de l'Euro face à l'Allemagne. Merci, bonne nuit.
Oui, je suis.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09, la suite du journal Amandine Bégaud. On est à 6 jours du premier tour des élections régionales et l'inquiétude la plus grande ce soir encore, c'est l'abstention.
Elle pourrait, si l'on en croit les derniers sondages, dépasser des records jusqu'à 60%. 60% d'abstention. Illustration à Créteil, où vous êtes rendu, Corentin Bémol.
Oui, avec le retour du soleil, le couvre-feu à 23h, pour beaucoup, aller voter n'est pas franchement une priorité.
Je vais peut-être au bois de Vincennes me faire bronzer.
Je vais promener mes enfants avec ce beau soleil.
Moi aussi, c'est promener mes neveux. Moi.
Surtout qu'à Créteil, certains ont complètement oublié l'élection qui se profile.
Ouais. Ah, on ne savait même pas.
Est-ce que tu sais même c'est quelle élection au moins ?
Département, non ?
Je sais plus. Ben voilà, peut-être que tu sais pas.
Gouane et Kader, eux, ont bien noté les dates des 20 et 27 juin. Mais pour eux, voter, c'est non.
Toujours les mêmes promesses et on n'a jamais les mêmes résultats, en fait.
Par principe, je vote pas. Quand on les entend parler, oui, on va faire ça, 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 ça. Mais trois mois plus tard, il n'y a rien qui bouge.
Enfin, dernière interrogation, la participation des jeunes. Anifa a 20 ans, elle est étudiante et elle n'est pas certaine de se déplacer.
On vient de sortir de nos examens, les cours viennent de finir, du coup il y en a plein qui partent, qui veulent profiter du beau temps et pas forcément s'attarder sur certaines choses comme les élections.
Enfin, pour beaucoup d'étudiants croisés ce matin, c'est bientôt le début des vacances, ce qui pourrait, là aussi, les éloigner des bureaux de vote.
À Créteil, le reportage de Corentin Bémol pour RTL en 2015. Lors des dernières élections régionales, l'abstention avait dépassé les 50%, 51% précisément.
Et à moins d'une semaine du scrutin, je vous rappelle qu'LCI, en partenariat avec RTL et Le Figaro, organise ce soir un nouveau débat, avec les candidats d'Île-de-France cette fois. LCI, c'est sur le canal 26 de la TNT et c'est à partir de 21h.
Demain, à la même heure, ce sont les Bleus qui entreront sur le terrain pour leur premier match de l'Euro. Ce sera face à l'Allemagne. Les hommes de Didier Deschamps sont arrivés tout à l'heure à Munich. Philippe Sanfourche est là-bas aussi. Il fait chaud.
Oui, les Bleus sont prévenus. Il fait chaud ici à Munich, 27 degrés et autant à peu près sous les casquettes des joueurs allemands qui sont un peu montés en température ces derniers jours avec des déclarations assez claires quant à l'envie de retrouver des valeurs de combat, placer le match sur le terrain du défi physique. Ça n'a pas échappé évidemment à l'oreille du sélectionneur Didier Deschamps.
Il y aura de l'engagement, des duels. Les Allemands sont préparés à ça et nous aussi. Dans les matchs de très haut niveau, évidemment, c'est la technique qui fait la différence, mais il y a toujours un engagement total de la part des deux équipes, donc il y sera demain aussi.
Dans un premier match qui n'est pas toujours une spécialité française, on se souvient d'une entame poussive des coéquipiers d'Hugo Lloris en Coupe du Monde face à l'Australie en 2018.
J'aime pas comparer les compétitions parce que elles sont complètement différentes. Maintenant, voilà, c'est à nous de décrire notre propre histoire. Ça commence demain avec un grand match d'ouverture à la clé et il faudra répondre présent.
Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est sur pied, plus aucun bobo. Didier Deschamps dispose de toutes ses forces vives.
Pourvu que ça dure. Philippe Sansfourche, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Munich, France-Allemagne. On le rappelle, bien sûr, ce sera à suivre demain sur RTL. Cet après-midi, sachez que la République tchèque a battu l'Écosse, victoire 2-0. La Pologne affronte en ce moment même la Slovaquie. Le match a débuté à 18h et on est toujours à 0 partout. Et puis ce soir, 21h, Espagne-Suède. Dès 20h45, on vous le rappelle, vous retrouvez tout le service des sports, comme chaque soir, pour un RTL Foot spécial Euro.
Et comme oui. Louis Baudin insiste pour le dire, Roger Federer s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de Halle en Allemagne. Je fais pour vous, hein, La bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Ben justement, on va parler tennis. On a retrouvé le petit garçon à qui Djokovic a donné sa raquette hier à Roland Garros. Superbe image qui a fait le tour du monde, ce petit bonhomme fou de joie qui exulte.
Il était la définition du bonheur.
Exactement. Voilà. Le petit chanceux vient du Mexique et il s'appelle Matteo.
C'était incroyable, la plus grande chance de toute ma vie. Djokovic est mon idole, c'était mon rêve.
Et voilà, rêve réalisé, il était au micro de nos confrères d'Amazon Prime. C'est pas Roger qui aurait fait ça, si ?
Mais c'est complètement gratuit, c'est complètement injuste. Mais, mesdames,
ça
messieurs,
soufflé.
Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, au revoir. Dans un instant, le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, est l'invité d'RTL Soir. Et si vous êtes choqué, vous aussi, vous lui écrivez amandine.begout@rtl.fr.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
18h et presque 17 minutes, il est épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique, le professeur Arnaud Fontanet, l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Arnaud Fontanet. Ce matin, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, était l'invité d'RTL et on a compris que pour lui, le masque à l'extérieur s'était terminé à partir du 1er juillet. Est-ce que cela vous semble être une bonne idée ?
Alors je pense que les critères qui permettront de choisir le bon moment pour que le masque à l'extérieur ne soit plus considéré comme nécessaire, ça va être d'une part la circulation du virus, qui doit être très basse, puis d'autre part la couverture vaccinale, hein, la proportion de personnes vaccinées en population, qui elle sera élevée. Alors vers le 1er juillet, la couverture vaccinale, on se doute qu'elle sera autour de 50% de l'ensemble de la population. Mmh. Et puis la circulation du virus, c'est plus difficile de le dire, mais on voit qu'actuellement on est sur une dynamique qui est quand même très bonne, on ne peut que s'en réjouir. Et puis c'est effectivement les autorités sanitaires qui auront le dernier mot et qui diront à ce moment-là, ben voilà, c'est le bon moment pour le faire. Donc je pense que c'est plausible. Hein. On est vraiment sur une dynamique, en tout cas, de épidémique qui est favorable actuellement, peut-être aidée par le climat, hein, qui lui n'est pas du tout propice à la circulation du virus. Mmh. Et puis on avait bien vu que l'année dernière, on s'était installé, en tout cas, sur juin et début juillet, là, on était encore bien. Après, il faut l'importance du masque en extérieur, c'est finalement de vous protéger des postillons de vos voisins, hein, parce que en extérieur, les aérosols, hein, qui sont des particules beaucoup plus fines, sont très vite dispersés par le vent. Donc, je pense qu'il restera toujours bon de maintenir une distance physique de 2 mètres. Hein, pas la peine de prendre les postillons de ses voisins en pleine figure. Et puis, continuer aussi de respecter d'autres gestes barrières simples comme l'hygiène des mains.
Bon, donc en gros, si je résume et je vous comprends bien, c'est pas incongru, mais il faudra continuer à faire attention. Elle sert à quoi cette période-là jusqu'au 30 juin ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut lever les restrictions, il faut lever le couvre-feu à 23h, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce qui se joue en ce moment alors que, vous le disiez, les chiffres de contamination sont bas et que le nombre de vaccinés en a dépassé les 30 millions ce week-end, en première dose.
Alors ce qui se joue en fait, c'est la tranquillité de notre été et puis l'automne qui se profile un peu à l'horizon. Plus on arrive à descendre, mieux on sera positionné. Alors j'ai envie de dire qu'en été, les éléments sont quand même rassurants actuellement parce qu'on sait, hein, le climat diminue d'à peu près 50% de la transmission des virus respiratoires. C'est ce qu'on a appris, en tout cas pour le SARS-CoV-2 responsable de la Covid. Et puis, on a une petite inquiétude malgré tout, qui est ce variant anglais qui est actuellement, pardon, le variant indien
ouais,
qui est
Delta.
Actuellement au Royaume-Uni, et qui eux leur pose des problèmes. Hein. Le Royaume-Uni, j'ai envie de dire, est 2 mois en avance par rapport à nous, à la fois sur la circulation du variant indien, hein, qui est à des niveaux aujourd'hui en France qui étaient ceux du Royaume-Uni il y a 2 mois, et puis la couverture vaccinale qui était aussi, on est à peu près décalé de 2 mois. Et les Anglais sont vraiment en train de se dire est-ce qu'on lève toutes les restrictions, parce qu'ils ont une reprise de l'épidémie due à ce variant indien qui est beaucoup plus transmissible.
Mais pardon, mais professeur Fontané, les Anglais, dites-moi si je me trompe, ils ont énormément vacciné avec l'AstraZeneca, dont on a lu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne suis pas épidémiologiste, mais on a lu qu'il était moins efficace sur le variant indien, alors que nous, le Pfizer ou le Moderna, qui sont les plus utilisés, sont réputés être plus efficaces. Ça compte ça ou pas? Ou il y a vraiment une vraie incertitude avec ce variant?
Alors ça va intervenir. Maintenant, les Anglais, ils ont finalement vacciné avec AstraZeneca les 40-70. Et puis les moins de 40 ans, ils sont plutôt sur Pfizer. Mm-hmm. Et les plus de 70 ans, ils sont aussi sur les vaccins ARN messager. Donc il n'y a pas une différence qui est si considérable. Ça peut jouer un rôle. Ce qui est très important, c'est jusqu'à quel point les vaccins, qu'il s'agisse des vaccins ARN messager ou de l'AstraZeneca, protègent contre les hospitalisations. Parce que ce dont on se rend compte en Angleterre, c'est que malgré une couverture vaccinale élevée en Angleterre, l'épidémie repart, donc le nombre de nouveaux cas par jour, avec le variant indien, qui est beaucoup, beaucoup plus transmissible. Ce qu'on va savoir dans les 3-4 semaines qui viennent, c'est est-ce que les hospitalisations vont suivre.
Il se pourrait. Ce qui leur arrive va nous arriver forcément ?
Ce qui leur arrive va nous arriver, parce que le variant indien est tellement transmissible qu'il va remplacer sur le territoire français dans les 2 mois qui viennent le variant anglais, enfin là je m'avance peut-être, hein, mais c'est en tout cas le scénario qui nous paraît le plus plausible. Et il y aura toujours en France un fonds de variants sud-africains qui est bien implanté, notamment en région parisienne. Et donc on va se retrouver au 1er septembre avec une circulation relativement basse du virus, je l'espère, si on ne fait pas n'importe quoi cet été, hein, on vient d'en parler. Mais à ce moment-là, avec un variant indien qui, lui, est beaucoup plus transmissible. Or, on sait, on l'a vu l'année dernière, que la fin du mois de septembre, c'est le moment où la deuxième vague avait démarré. Donc, on aura une pression de recirculation de virus liée au changement du climat vers la fin du mois de septembre.
Et c'est là. Ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire qu'on va avoir une quatrième vague? Ça veut dire que la probabilité d'une quatrième vague existe pour vous?
J'irai pas jusqu'à une quatrième vague. Il est vraiment impossible aujourd'hui de dire quelle forme cette reprise épidémique prendra. Mais ce qui va être déterminant, c'est effectivement l'efficacité du vaccin contre le variant indien et contre les hospitalisations liées à l'infection par le variant indien. Ce que l'on voit actuellement au Royaume-Uni, et il faut vraiment suivre de très près les 3-4 prochaines semaines, c'est une reprise épidémique avec des infections et des cas cliniques, mais qui ne sont pas très graves. On ne sait pas encore s'il y aura une reprise des cas graves et donc des hospitalisations, parce qu'il se peut que le vaccin, y compris AstraZeneca, protège malgré tout contre les formes graves et les hospitalisations. Et ce qu'on va voir au Royaume-Uni dans le mois qui vient préfigure ce qu'on verra en France au mois de septembre quand le variant indien sera devenu majoritaire. Et si on s'est bien vacciné d'ici là, et mon message c'est vraiment continuons à nous vacciner parce que c'est vraiment la solution par rapport à cette épidémie.
Oui.
Si on s'est bien vacciné d'ici là et si le vaccin protège contre les formes graves, des hospitalisations, eh bien à ce moment-là, on pourrait même face au variant indien bien résister à la rentrée prochaine. Et c'est pourquoi je ne vous dirai pas nécessairement qu'il y aura une quatrième vague, c'est trop tôt pour le dire.
Mais ce que vous nous dites, c'est que la clé, ça reste, une des clés principales, ça reste la vaccination. Je le disais tout à l'heure, on a dépassé les 30 millions de personnes vaccinées à une dose en France ce week-end, mais on sent qu'il y a un plafond, même le ministre de la Santé l'a reconnu qu'il y avait un plafond. Est-ce que, pour vous, il faudrait se reposer, et je ne vous demande pas de faire de la politique, mais du sanitaire, se reposer la question de la vaccination obligatoire, professeur Fontané?
Alors,
si ça plafonne toujours.
Tous les pays, quand ils ont atteint le niveau où on est aujourd'hui de 45% de la population vaccinée, ont vu les courbes de vaccination se ralentir. Hein. On est finalement sorti des gens qui voulaient se faire vacciner et ont cherché activement à se vacciner, à maintenant une tranche de la population où se trouve une partie de personnes hésitantes et puis des personnes totalement récalcitrantes à la vaccination.
Alors, mais ça vous inquiète ou vous dites que ce n'est pas si grave ?
Attention d'abord, quand on dit 45% de la population, c'est de la population générale, hein, oui. Y compris les enfants qui ne sont pas vraiment dans l'équation. Ça veut dire qu'on est quand même, si vous regardez les plus de 60 ans par exemple, c'est là où on trouve les personnes vulnérables dans le plus grand nombre, On est plutôt à 80% de personnes vaccinées hein, et 90% dans la tranche, par exemple, des 70-79. Il faut que chez les plus vulnérables, on arrive à 90% parce que c'est eux qui, s'ils étaient infectés, vont effectivement faire des formes graves. Et puis, il faut dans le reste de la population qu'on arrive à des taux beaucoup plus élevés. Et là aussi, qu'on se rapproche des 80-90% parce que c'est comme ça qu'on bloquera la circulation même du virus. Et donc, les chiffres, la période qui vient va être effectivement critique. Il faudra réfléchir à la vaccination des adolescents, en tout cas, pour la rentrée scolaire.
En tout cas, pour les 12-17 ans, ça commence demain. Hein.
Alors, ça va commencer prochainement.
Oui.
Ce que je peux imaginer pour la rentrée scolaire assez facilement, c'est que si ce scénario du variant indien qu'on a discuté précédemment se confirmait, hein, c'est-à-dire qu'il devient majoritaire, comme il est extrêmement transmissible, il va se remettre à circuler dans la population. Mmh. Et si malheureusement on n'avait pas une couverture vaccinale suffisante à ce moment-là, et que le système hospitalier redevenait en tension parce que peut-être que les vaccins ne suffiront pas pour protéger nécessairement contre toutes les formes graves où il y aura des gens non vaccinés, l'endroit où va circuler de façon préférentielle ce virus, ça va être les écoles. Et s'il faut protéger le système hospitalier, on sera obligé de fermer les écoles. Et s'il y a vraiment une chose qu'on n'a plus envie de faire, c'est de fermer les écoles parce que nos enfants, ils ont besoin de retourner à une scolarité normale. Et c'est à ce titre que je pense que la vaccination des adolescents va les concerner eux-mêmes directement parce que c'est la meilleure chance de leur donner un retour à une vie sociale et une vie scolaire dont ils ont absolument besoin.
On entend que le match n'est pas encore complètement gagné. J'ai deux questions rapidement, s'il vous plaît, toujours sur cette vaccination des 12-17 ans. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui s'inquiètent, qui disent qu'on n'a pas assez de recul? Quelle est votre position là-dessus? Vous les rassurez? Vous leur dites c'est un risque à prendre? Qu'est-ce que vous leur dites?
Non, j'ai envie de les rassurer parce que bon, on est toujours dans des balances bénéfices-risques hein, avec les vaccins, hein, mais que pour l'instant, les effets indésirables qu'on a observés avec les vaccins ARN messagers qui seront destinés à ces enfants, pour les effets graves, hein, on est dans de l'ordre de grandeur de 1 pour 100 000. Hein. Donc on est quand même, quand on pense maintenant aux bénéfices de ces enfants, ces adolescents, je viens de le rappeler, hein, ils ont quand même eu des vies très perturbées depuis 15 mois et ils ont besoin d'un retour à une vie sociale et scolaire normale. Et ce que les pédiatres nous racontent aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la Covid n'est pas un problème clinique pour les enfants. Ils vont pas faire des formes graves, c'est très très rare. Mais il y a vraiment de plus en plus de troubles psychiques chez les enfants, qui, à type d'anxiété, de dépression, il y a des anorexies chez les adolescents, qui sont liées finalement à cette période continue d'interruption qu'ils ont vécue récemment. Et il faut leur donner un retour à une vie normale pour éviter ces troubles psychiques. Et quand je pense à la balance bénéfice-risque, elle est vraiment en faveur du vaccin.
Vous feriez vacciner vos enfants dans cette tranche d'âge-là?
Je vous ai une question personnelle, mais je vais vous répondre oui.
Oui,
bien sûr.
D'accord. Pardon, c'est pas pour être dans votre intimité, mais c'est toujours assez éclairant pour les auditeurs.
Non, mais j'ai des adolescents, hein, pour répondre directement à cette question. Et oui, bien sûr.
J'avoue que j'avais pas travaillé la composition de votre famille avant de vous poser la question. C'est plus sur le principe que sur la réalité. Dernière question. On en est où des traitements contre le Covid? L'Institut Pasteur travaille, paraît-il, à un traitement par suppositoire. C'est quoi? C'est une piste? C'est une promesse? On y est presque? On en est où?
Alors ça, c'est l'Institut Pasteur de Lille. Hein. Il y a plusieurs instituts pasteurs, comme vous le savez, dans le monde et en France. Il y en a un à Lille et un à Paris. Pour celui de Lille, ils ont une piste, effectivement, qui est celle d'un traitement qui avait déjà été utilisé dans le passé hein, sur les infections respiratoires. Je ne sais pas où ils en sont. Il y avait des essais qui étaient en cours, hein, mais je n'ai pas vu encore les résultats. D'une façon plus générale, hein, sur les traitements, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on a une meilleure prise en charge des patients. On a diminué de 50% la mortalité intra-hospitalière avec des traitements comme les corticoïdes, par exemple, les anticoagulants, l'oxygénothérapie à haut débit. Ce qui nous a manqué depuis le début de cette épidémie, c'est des traitements plus spécifiques du virus. Aujourd'hui, c'est les anticorps monoclonaux et peut-être l'interféron bêta, y compris par voie nasale, qui sont à l'étude. On n'a pas encore les résultats de l'ensemble des essais cliniques qui sont en cours. Il y aura des solutions, mais c'est vrai que ça restera, par exemple les anticorps monoclonaux, des solutions assez lourdes à mettre en place. Hein. C'est des traitements qui demandent une perfusion d'une heure, qui sont assez coûteux. Donc on n'a pas encore le médicament simple qu'on aimerait pouvoir donner à des gens qui vous disent voilà, je viens d'être infecté et j'aimerais ne pas avoir une aggravation de ma maladie. Donc voilà, c'est toujours en cours d'étude.
Merci beaucoup professeur Fontanet d'avoir été en direct avec nous dans RTL Soir. Merci beaucoup. Dans un instant, l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne, qui a envie, je crois, de prendre sa voiture.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres à 18h31.
Et à l'instant sur RTL, Arnaud Fontanet se dit plutôt optimiste quant à la suppression du masque en extérieur pour le mois de juillet. C'est plausible, dit ce soir l'épidémiologiste, qui est par ailleurs membre du conseil scientifique. Mais attention, tout dépendra, explique-t-il, des chiffres de l'épidémie et surtout de l'avancée de la vaccination. Une vaccination qui débute demain pour les adolescents les plus de 12 ans. Ils devront avoir l'autorisation de leurs deux parents et être accompagnés de l'un d'entre eux. Et puis concernant le couvre-feu, pas question d'accorder une dérogation demain pour l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro. L'équipe de France de foot affrontera, on le rappelle, l'Allemagne cet après-midi. La République tchèque a battu l'Écosse 2-0. La Pologne, elle affronte en ce moment même la Slovaquie. Les Slovaques qui mènent 1-0. Ce soir, ce sera Espagne-Suède à suivre, bien sûr, sur RTL. Dans RTL Foot, spécial Euro, ça c'est dès 20h45.
Eh bien, tout ça est bien noté. La météo, Louis Baudin, c'est une délicieuse banalité demain.
Exactement, c'est comme aujourd'hui. C'est du ciel dégagé quasiment partout, de la chaleur et quelques orages, comme ce soir, du côté des Pyrénées. Peut-être une averse également sur le sud du Massif central ou encore les Alpes du Sud. Et c'est tout. Et avec ce soleil, eh bien, la même chaleur qu'aujourd'hui, voire un peu plus par endroit. Avec le matin déjà 14 à 20 degrés, l'après-midi 21 à 24 degrés près de la Manche et 29 à 34 degrés dans les autres régions.
Eh bien quand même, merci beaucoup.
Ah, quand même, oui.
L'œil de Natacha Polony, puisque nous sommes lundi. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Depuis le 1er juin, les voitures avec vignette critère 4 n'ont plus le droit de rouler dans Paris. Critère 4, c'est celle qui est marron, un peu moche. Voilà. Un modèle qui va s'étendre dès l'an prochain et qui commence à faire grincer des dents. C'est une fois de plus le match entre fin du monde et fin du mois que vous nous refaites là.
On va résumer la polémique pour que ceux qui n'auraient pas suivi depuis quelques années. On voit se développer en France le principe des ZFE, les zones à faible émission, qui sont déjà répandues dans plusieurs pays d'Europe. L'idée, c'est qu'en ville, là où ça se concentrent les particules fines, et ben on définit des zones dans lesquelles les véhicules les plus polluants, voitures et motos, ne pourront plus rouler. L'Île-de-France en a créé une dans le périmètre de l'A86, la grande rocade autoroutière, ce qui inclut en fait 67 communes. Et d'ici deux ans, 44 métropoles auront leur ZFE. Alors le problème, c'est que ce sont en général les plus pauvres qui ont des voitures plus anciennes, donc ne répondant pas aux derniers critères d'émission de particules fines. Voyez un exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est 18% du parc automobile qui est touché par l'interdiction, contre une moyenne de 11% en France, qui est déjà beaucoup. En gros, les métropoles envoient les pauvres se faire voir ailleurs.
Alors, on entend évidemment l'argument économique, mais l'idée de départ, c'est d'essayer d'éviter 40 000 morts par an. Donc, on se dit qu'il faut bien agir quand même.
Non, mais c'est vrai, les associations évaluent les décès anticipés du fait de la pollution à environ 40 000 par an, ça, et donc on pourrait réduire le chiffre. Mais on en revient toujours au même problème. Comme pour la taxe carbone, est-ce que les gens qui sont visés ont le choix ? Si on applique l'adage du pollueur-payeur, qui pollue exactement ? Nous avons favorisé depuis 30 ans une concentration de l'activité dans les métropoles, avec une libéralisation du marché de l'immobilier, et la conséquence, c'est que tous les emplois sont dans les grandes villes, et qu'il est impossible de s'y loger pour les classes moyennes et les classes populaires. Il y a des transports en commun, mais ils sont bondés, ils sont pas forcément très agréables ou très sûrs, et ils sont pas forcément performant. Et derrière, on vient expliquer aux gens qu'ils provoquent la fin du monde avec leur vieille bagnole.
Bon, mais on fait quoi là ? On fait le coup de stress des gilets jaunes et on arrête tout, c'est ça, par peur ?
Non, mais déjà, on part du principe que les métropoles ne sont pas la propriété de ceux qui ont les moyens d'y habiter. Si les gens y viennent, et s'ils y viennent en voiture, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Et non, ils ne vont pas se payer tous les 5 ans une nouvelle voiture pour répondre aux nouvelles normes. Et non, ils ne peuvent pas passer à l'électrique, même avec les aides de l'État et des régions. Du coup, on fait ce qui a été abandonné depuis 30 ans, de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on invente, on construit la France de 2030 et elle doit avoir des infrastructures et des emplois dans les villes moyennes pour désengorger les métropoles, donc des industries, le retour des services publics. On met le paquet sur les transports en commun, on recrée un maillage territorial par le train. On favorise aussi le télétravail en comblant la fracture numérique, faut pas l'oublier. Bref, on planifie plutôt que de réglementer et on investit plutôt que de taxer.
C'était joli le mariage territorial à la place du maillage.
Oui.
Ça collait bien aussi.
Exactement.
Vous êtes venu à vélo aujourd'hui comme d'habitude ou pas ?
Eh bien là, non. Là, j'avoue, j'étais fatiguée et ça arrive à tout le monde.
C'était pas une réprimande.
Non, mais je sais, mais il faut comprendre, justement, le vélo, c'est pas magique. Les gens qui prennent leur voiture, c'est parfois parce qu'ils sont malades, fatigués, etc. Ça arrive.
Et puis, il fait très chaud voilà. Là pour pédaler. Merci beaucoup à vous, Natacha.
Demain, c'est Cabrières.
Ça va, l'esprit est toujours vif. Merci beaucoup. Le vôtre, pas le sien. C'est une légende du football. Il s'appelle Alain Giresse. Si le foot français est là où il est, c'est grâce à lui, grâce à sa génération. Aujourd'hui, ce pudique se raconte dans un livre. Ça s'appelle Né pour jouer, c'est publié chez Robert Laffont. Alain Giresse, oh bah dis donc, vous avez raison, il fait chaud. Invité d'RTL Soir, tout de suite en direct.
Thomas Soto, RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
C'est une légende du football, une vraie. Il publie « Né pour jouer » chez Robert Laffont. Alain Giresse est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Alain Giresse.
Merci, bonsoir.
Je voudrais commencer par vous remercier, vous et votre génération, celle des années Platini, Giresse, Tigana, Gengini, Fernandez, vous qui avez les premiers remporté un euro pour la France, vous qui avez montré que la victoire était possible, que l'on devait, qu'on ne devait pas mettre de limites, pas de barrières à nos rêves. Donc merci à vous et à toute votre génération, Alain Giresse. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir parler du livre. Demain soir, il y a un France-Allemagne, que de mauvais souvenirs. Pour vous, les France-Allemagne, est-ce que demain, il y aura toujours cet arrière-goût de revanche, cette amertume chez vous?
Ben pas de revanche, mais quand même, la présentation de France-Allemagne, c'est pas un match ordinaire, c'est une évidence. 82 est passé par là et fait en sorte que chaque fois qu'on les affronte, eh bien, il y a comme ça des souvenirs qui se ravivent. Voilà. Mmh. Donc, mais place à l'actualité avec maintenant, quand même, on peut dire, depuis 82, on a démontré qu'on pouvait bousculer ces Allemands. Je pense qu'on est sur le papier, en tout cas, on présente plus d'arguments que les Allemands.
Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, hein, presque 40 ans plus tard, vous en parlez de ce France-Allemagne de Séville en 82. Vous écrivez « Encore aujourd'hui, je tourne en rond pour sortir de cette sphère machiavélique, de ce labyrinthe infernal qu'aura représenté ce France-Allemagne, dédale de mauvaises ondes, dont je ne trouve toujours pas la sortie ni l'échappatoire. » Ça veut dire qu'il vous rend toujours malheureux, ce match, Alain Giresse? C'est pas possible?
Oui, plus quand on commence à démarrer sur ce match, à le raconter, puisqu'on me sollicite souvent évidemment pour en parler, bien voilà, je tombe dans ce labyrinthe, comme je dis, et puis j'arrive pas à trouver la sortie. Je crois que je la trouverai jamais. Voilà, donc c'est des sensations assez particulières qui rend ce match là, parce qu'on a tellement vécu des moments tellement différents que voilà où on en est. Voilà, c'est un moment très fort.
On est tous malades, hein. Tous ceux qui l'ont vécu. Moi, j'étais un petit bonhomme. Je crois que j'avais 7 ans ou 8 ans ou 9 ans. De ce match, vous écrivez d'ailleurs joliment qu'il ne résume pas le football, non, mais qu'il résume la vie. Et plus largement, de cette Coupe du Monde 82, vous dites, elle reste à la fois une belle surprise et une plaie vive. Alors, pourtant, vous avez marqué à Séville contre l'Allemagne, un but magnifique. Vous étiez dans un bonheur fou à ce moment-là. Les images sont impressionnantes. Il faut aller les revoir, hein, taper Alain Giresse, but France-Allemagne sur Internet, vous allez voir. Mais c'était pas votre destin. Alain, tu es l'aîné, tu deviendras charpentier. Ça, c'était votre destin de fils et de petit-fils de charpentier. Et de fait, vous avez eu votre CAP de charpentier à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui vous a fait dévier de cette trajectoire finalement? Pourquoi vous avez quitté métier de charpentier?
Parce que le football, c'est le football qui m'a appelé. Et tout d'un coup, moi je joue au football pour le plaisir, et puis on a décelé en moi des qualités certaines, en me disant, et quand on m'a dit, ben, écoute, il faudrait que tu viennes maintenant tous les jours à l'entraînement, au Girondin, avec les jeunes, voilà. Mon père n'a pas hésité un seul instant, évidemment. Et donc moi j'étais lancé, mais lancé pourquoi? Pour continuer à jouer. J'ai dit, ben, dans un premier temps, si je ne reçus pas, ben, je reviendrai à l'atelier, remettre le costume de charpentier, voilà. Mmh. Mais j'y suis pas revenu professionnellement, j'y suis pas revenu, voilà, ma carrière était lancée.
Vous avez un tout petit peu conscience d'être Alain Giresse quand même, ou pas du tout?
Ben, c'est d'ailleurs curieux, à travers ce bouquin, ce livre, je me dis, mais pourquoi vous voulez que je raconte ma vie? Et en déroulant ma vie, je me dis, mais oui, quand même, elle peut être racontée, parce que j'ai vécu des moments extraordinaires, vous l'avez dit, de mes débuts qui n'étaient pas programmés, d'après de mon ascension de joueur international, les titres avec la France, les clubs, avec les clubs, les journées surtout, et puis tout mon après football, d'aventure sportive et humaine. Voilà, et je dis, mais ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé, donc. Je pense que ça va se connaître, quoi. Que les gens sachent un petit peu que voilà ce qui m'est arrivé, ce qui peut arriver à d'autres personnes, ce genre de carrière.
Et vous en avez parlé, et vous en parlez dans le livre de l'après-football, là, que vous évoquez, la retraite du sportif, la fameuse petite mort. C'est dur, écrivez-vous, il est impossible de retrouver une activité, un métier qui me fasse vibrer aussi fortement. Vous parlez de souffrance, vous avez été déprimé, vous avez été dépressif quand tout ça s'est arrêté? On cherche le sens de la vie?
Ah oui, complet. Oui, on est là. On est bon. Chaque saison, j'étais programmé. Il y avait un calendrier avec des matchs. Bon, voilà, je savais qu'il fallait que voilà, je m'attache à ça, de me préparer pour cela. Et puis tout d'un coup, ben, quand c'est arrêté, j'ai regardé, ben, il n'y avait plus rien. C'était le vide. J'ai dit, mais comment je vais m'orienter là-dedans? Pendant 6-8 mois, on cherche un petit peu sa voie. Puis après, on arrive à se situer, à comprendre que c'est fini, pas facilement. Et puis on se replonge dans une autre partie de notre vie avec, et on trouve des moyens de, quand même, de s'y retrouver, mais jamais, effectivement, jamais autant que la vie de joueur.
La vie de joueur, c'est 18 saisons passées en première division, comme on disait à l'époque. On en retient dans votre livre, pardon, votre grande admiration pour Aimé Jacquet, qui avait fait de vous son capitaine à Bordeaux. L'ère Jacquet, c'était du talent, des matchs de légende, du professionnalisme de la part de tous, une osmose avec le staff. On ne se posait même pas la question de savoir si on allait gagner à Bordeaux, on se demandait juste combien on allait gagner. Ça doit être facile quand c'est comme ça le football, évidemment.
Oui, ça c'est les périodes rares. J'ai pas vécu toute ma carrière dans cet état-là, malheureusement. Mais là, quand on est là, on est au firmament. C'est vraiment un bonheur complet. Là, tout fonctionne. Mais voilà, c'est du professionnalisme. Mais je le dis, je le répète, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, tout est beau, tout est facile. Et on se rend pas compte qu'on rend les choses faciles.
Oui. À force de beaucoup de travail, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, hein. ça ne vient pas tout seul.
Exactement, le travail que l'on fait et que l'on faisait naturellement, mais sans contrainte. La rigueur que l'on devait avoir, le sérieux, la conscience professionnelle qu'on mettait là-dedans, mais ça nous paraissait tellement évident que ce n'était pas un problème.
Pourquoi vous avez refusé de lui succéder à Aimé Jacquet, là, on en parlait, au poste de sélectionneur des Bleus en 90? Pourquoi vous dites non? Quelle idée?
Oui, parce que je pense que j'étais encore trop jeune dans le métier d'entraîneur. J'avais que 3 ans de club. Prendre l'équipe nationale, je me dis non, il faut quand même encore que je fasse un peu mes armes dans un club, voilà. Et pourtant, Monsieur Le Graët, ce 1er mai 98, il était là, il m'a reçu très agréablement. Il me dit allez, Alain, il faut y aller.
Vous avez regretté ou pas ?
Merci, bien sûr. Non. Non, pas du tout. En plus, regretter, non. Oui, je sais qu'on pourrait dire regretter parce qu'après, l'équipe a été championne d'Europe en 2000. Non, ça serait raccourci, qui serait pas.
Oui.
Il
se trouve qu'il y a une remarquable stabilité dans le football et que ce monsieur Le Graët dont vous parlez, il est toujours en poste. S'il vous appelait là pour après l'Euro pour vous dire, dis donc Alain, on y va maintenant, vous y allez ou pas?
Non, je crois qu'il y en a d'autres qui se présentent. D'abord, Didier n'est pas encore. Didier n'est pas parti encore. Je pense qu'il va aller jusqu'à la.
Repose ma question. À supposer que Didier Deschamps va y partir et qu'on vous propose le job, vous y allez ou pas?
Non, c'est plus dans l'actualité, c'est plus dans la logique de ce que j'aurais pu dans ma carrière. Non, c'est plus là. Je suis toujours orienté sur d'autres choses du football.
D'accord. Les Bleus, donc l'équipe de France version 2021 va attaquer son Euro demain. Quel conseil vous leur donneriez à ces Français, à ces joueurs?
Conseil, c'est bien prétentieux. Ils sont champions du monde, je pense que là. Ouais. Donc, c'est surtout dans ce cas-là, vous savez, il y a une différence entre faire la Coupe du Monde en 2018 sans être le super favori et faire l'Euro 2020 ou 2021 en étant favori. Ça change de beaucoup parce que on ne va pas être appréhendé de la même façon. Et c'est là qu'il faut se remobiliser, repartir presque de zéro, avec beaucoup d'humilité, de remise en cause. Et à ce moment-là, leur talent qui est réel pourra s'étaler. Mais sinon, tout d'un coup, si on n'a pas cet engagement, on peut avoir des problèmes.
Ça se chamaille entre Mbappé et Giroud, c'est inquiétant ça ou pas, ou c'est la vie d'un groupe?
Non. Ça me fait sourire. C'est parce que c'est des choses comme ça, peut-être qui ont été moins révélées, mais il y en a eu. Nous avons vécu, nous aussi, ce genre de choses.
Il y en a eu chez vous à votre époque?
Mais bien sûr, ouais. Mais comme je vous l'ai dit, puisque l'équipe de France était aussi une équipe de joueurs très professionnels, très matures, conscients de l'engagement qu'ils avaient pour avec le maillot, des objectifs qu'on voulait atteindre, donc tout ça se réglait en interne sans problème avec l'appui ou de Michel Hidalgo ou d'Henri Michel, et puis on avait un grand capitaine, Michel Platini, qui était là aussi pour régler les problèmes. Non, mais tout ça, il faut passer au-dessus. Je veux dire, qu'est-ce que c'est des chemises. Je comprends que Olivier Giroud, il peut réagir comme ça, mais après Kylian, qui s'en prenne pas la tête. Vous rendez compte ce qu'il est, Kylian Mbappé? Il est à marge de devenir l'un des plus grands joueurs du monde. Qu'est-ce qui va s'arrêter à ce petit problème de rien du tout?
Alain.
C'est vrai.
Alain, vous êtes prêt là? Vous faites la causerie d'avant-match là? Vous réglez les problèmes psychologiques?
Non.
Je pense que vous êtes... Noël Le Graët sera l'invité de Benjamin Sportouche demain matin à 7h40. Je pense qu'on va lui rediffuser des extraits, hein, parce que là, s'il cherche un candidat pour succéder à Deschamps. Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose au film, vous changeriez quoi?
À
votre film, ouais.
Non. Rien. Il y a deux petits trucs, mais c'est trop personnel pour que je le dise.
On est entre
trop
nous.
Personnel. Non, il y a eu des périodes. Non, alors je dirais qu'il y a eu des périodes qui m'ont fait mal. Je suis parti de Bordeaux et ça a été dur. C'était très difficile. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui reste assez vivace chez moi pour des raisons personnelles parce que voilà, parce que j'avais pas pensé que je puisse un jour quitter Bordeaux. Voilà, je l'ai ressenti très mal après. C'est pour ça que je ne pouvais pas jouer avec Marseille et jamais n'était expliqué à Bernard Tapie. À Bordeaux, c'était au-delà de mes forces sur le plan moral. Je savais que professionnellement, c'était pas correct, mais j'ai dit, mais il a compris. Il avait compris et je le remercie d'ailleurs d'avoir compris que je pouvais pas faire ça.
Merci beaucoup Alain Giresse, de la morale, de l'humilité, un immense champion. Vous signez avec Dominique Sévrac, né pour jouer chez Robert Laffont. Et puis moi je vous remercie parce qu'on a eu l'occasion de faire un jour un Paris-Rio oui. ensemble, assis à côté. Et je pense Exactement. Que c'est le voyage le plus court de toute ma vie. Vous m'avez tout raconté. Je... Peut-être que je ferai un livre pour vous raconter un jour.
C'était oui, on n'a pas vu le voyage. Pas
c'est vrai. Rester. Merci à vous Exactement. Et merci à Denis Grandjou qui était à vos côtés pour ce duplex. Merci Alain Giresse.
Bonsoir.
Certes, le Serbe a gagné, le Grec a perdu, Djokovic a triomphé, mais Tsitsipas n'a pas démérité. D'ailleurs, ce soir, Julia Molcou a eu envie de le consoler. C'est donc bien la Grèce qu'elle a invitée dans la culture de l'actu.
Thomas Soto, RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir et surtout la culture de l'actu avec vous, Julia Molcou. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors, c'est vrai que vous, dans la finale de Roland Garros, ce que vous avez préféré, c'est le physique. Hein, le physique ouais. de Stefano Tsitsipas, qui s'est donc incliné face à Novak Djokovic en finale. Mais il n'aura pas tout perdu, puisque ce soir, vous avez décidé d'inviter la Grèce pour essayer de le dragouiller dans la culture de l'actu.
Avant d'être la destination préférée des Français et de Thomas Soto en particulier.
Calimera, Tikanis. Kala, Polikala.
La Grèce, ai-je besoin de le rappeler, c'est le berceau de nos civilisations occidentales. C'est le berceau des arts, de la philosophie, des sciences, mais aussi, évidemment, de la démocratie. Sans oublier que c'est aussi dans ce sublime pays d'Europe du Sud...
Normalement, là-dessus, vous ne parlez pas, vous dansez. Ok ?
C'est devenu très, très compliqué de faire une chronique.
Allez-y.
Sans oublier que c'est donc aussi dans ce sublime pays d'Europe du Sud, j'étais là, que sont nés les Jeux Olympiques. L'hymne olympique composé par Spyros Samaras pour les premiers Jeux de l'ère moderne qui eurent lieu à Athènes en 1896. Mais la première trace écrite sur le concours sportif organisé à Olympie, eh bien elle date de 776 avant Jésus-Christ. Ces Jeux sont organisés dans le but de créer une unité dans le monde hellénique qui à l'époque est encore très fragmenté en cités-états qui n'ont de cesse de se faire la guerre. Ils ont lieu tous les 4 ans et ils sont évidemment organisés en l'honneur d'un dieu. Et quel dieu ?
Zeus.
C'est bien Thomas. Et bien alors si vous vous rendez au Louvre Thomas, dans la galerie Campana par exemple, vous vous reconnaîtrez facilement un athlète sur un vase antique. Vous savez comment ?
Non.
Et bien c'est celui qui est tout nu. Oui, mais voilà. Alors, à l'entraînement et en compétition, les athlètes en Grèce antique étaient toujours tout nus. Une façon d'illustrer l'idéal, l'harmonie incroyable entre le corps et l'esprit.
Je comprends pourquoi vous êtes intéressé à la Grèce.
Ne cherchez pas de femme
en revanche. Dans la culture serbe, ils sont plus habillés, c'est comme ça qu'elle a arbitré.
Ne cherchez pas de femme en revanche sur les vases antiques. Seuls les hommes grecs et libres avaient le droit de participer à ces Olympiades.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage.
C'est bien sûr au poète et chanteur grec Homère que l'on attribue les deux premiers textes de la littérature occidentale, l'Iliade et l'Odyssée. Le premier se déroulant pendant la guerre de Troie, le second racontant le retour d'Ulysse à Ithaque pour retrouver...
Oui.
Pénélope.
Absolument. Je cherchais un truc.
Oui, ça va les garçons. Et dans une version plus contemporaine, la femme grecque qui aime follement et qui attendra toute sa vie que lui revienne son Ulysse pourrait s'appeler Maria Callas. Maria Callas, la plus grande cantatrice du XXe siècle, née à New York de parents grecs, rentrée à Athènes, c'est ici qu'elle prend ses premières leçons de chant et à 17 ans, elle fait ses premiers pas à l'Opéra National grec. Et c'est sa rencontre avec l'armateur grec Aristote Onassis Ulysse qui la fera s'éloigner de la scène qu'il avait pourtant vue applaudie par le monde entier.
De parler après ça. Je peux plus. Bon, on peut quand même citer d'autres grands noms de femmes dans la tradition musicale grecque.
Oui, changement d'ambiance, mais c'est vrai qu'on peut parler de Domna Samiou. Domna Samiou est née en 1928 dans un quartier très pauvre d'Athènes. Elle rentre comme domestique dans une maison à l'âge de 13 ans. Mais quand elle nettoie, quand elle cuisine, elle chante et sa voix ne peut pas laisser indifférent.
Ήπνε που παίρνεις τα παιδιά.
Elle reste très célèbre pour avoir chanté, mais aussi pour avoir collecté des chants traditionnels grecs qui risquaient d'être oubliés. Et puis, on peut aussi citer Mélina Mercouri. Mmh. Mélina Mercouri interprétait dans « Jamais le dimanche » de Jules Dassin « Les enfants du Pirée », chanson qui sera oscarisée en 1960. Et puis, cette chanson va devenir la chanson la plus connue de Grèce et elle sera reprise par Nana Mouskouri, Luis Mariano ou encore Dalida.
Μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια.
Που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά.
Ils sont dans les époques en fonction des versions.
Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dans ce guémat.
Enfin, si les Grecs n'ont pas Jean-Jacques Goldman et ils le regrettent, mais c'est pas grave, ils ont quand même des Miss Roussos et c'est presque pareil.
Je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi.
Je sais pas s'il valide la fin, je suis pas sûr. Il y a un très très beau livre aussi, Andrea Marcolongo, La part du héros, le mythe des Argonautes et le courage d'aimer. Formidable, qui revisite l'Odyssée. Formidable, vraiment.
Comme la rivière.
Jean-Jacques Goldman grec s'appelle Lavrentis Makiriadis. Je ne peux pas y s'appeler comme ça parce que malheureusement il est décédé il y a un an et demi ou deux ans. Et il chantait notamment ça, Tina Pau.
C'est quoi ses points communs avec Jean-Jacques Goldman ?
La popularité, madame.
Ah bah voilà. C'est pas mal, hein? J'aime bien, moi.
Plus que pas mal. Et puis, bien sûr, on peut pas parler de la Grèce sans faire un petit clin d'œil.
Manico, salut! Salut! La météo, Louis Baudin, alors, demain?